RCF. Bonjour sur RCF Cœur de Champagne avec RCF Reims-Ardennes. Notre émission de 18h10 à 19h, une émission spéciale avec comme invité Monseigneur François Touvet. Monseigneur, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à tous nos auditeurs.
Pour nous accompagner, Alexis Claudresse est avec nous. On vous retrouve tout à l'heure, Alexis, pour le journal régional.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un journal où on ira à Châlons en Champagne, où nous sommes ici ce soir. Mais on parlera notamment des festivités de Noël qui sont de retour. Et puis on parlera des actions des bénévoles du Secours catholique pour l'antenne Marne-Ardenne, Jean-Pierre.
Alors nous avons emmené, j'allais dire, avec nous, deux jeunes stagiaires qui sont là, Manon et Kylian. Manon, rebonsoir.
Bonsoir.
Vous allez nous proposer, je crois, la météo tout à l'heure, hein. Et puis, Kylian qui est avec nous, qui sont en stage actuellement à Reims.
Bonsoir. Bien,
vous voyez, on se déplace, on va dans les radios et on interview un évêque dans une émission spéciale. C'est ça aussi pour les stagiaires. Monseigneur, merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que ce 18-19 est un peu particulier, puisque c'est celui qui, bon, pour l'instant, sera le dernier de notre rencontre depuis déjà plusieurs années.
Oui, en effet.
Le 18-19 en Champagne, Jean-Pierre Benoît.
Voilà, la musique est éteinte, on peut vous parler tranquillement.
On va danser.
On va danser. Alors justement, on est heureux de vous retrouver. Évidemment pas pour refaire les émissions qui ont déjà été diffusées ici, qui sont à visée diocésaine, parce que c'est le diocèse de Châlons. On va évoquer bien sûr le diocèse de Châlons, mais c'est sans doute... Ben c'est même sûr, le dernier 18-19 en direct, nous avons eu beaucoup de plaisir, et on tient à vous le dire, depuis plusieurs années, à vous retrouver depuis 8 ans. Alors on ne vous dit pas ça pour vous faire plaisir, puisque vous êtes sur le départ, mais on est vraiment très très heureux de pouvoir partager ces émissions avec vous, avec beaucoup de plaisir, quand nous venions à Châlons. Alors, la nouvelle est tombée, nommé avec coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon, vous vous y attendiez quand même un peu, Monseigneur.
Ben, je le savais depuis quelque temps, puisque les choses ne se décident pas du jour au lendemain quand même. Mais j'attendais que cette nomination soit rendue publique, parce qu'il y avait déjà des fuites dans la presse écrite, et ça devenait assez inconfortable, ou un peu désagréable même. En tout cas, pas facile pour moi ici, avec les diocésains de Châlons, de devoir leur dire non, je ne dis rien, on ne commande pas ce genre d'informations, de rumeurs. Tant que le Saint-Siège n'a pas publié la nomination d'un évêque, on n'en parle pas, c'est la règle. Voilà, donc c'était un petit peu délicat. Ça a été donc publié le 21 novembre, et depuis, eh bien, j'ai l'occasion d'expliquer un petit peu la mission qui m'est confiée par le pape, dans quel état d'esprit je suis, la réalité que je vais trouver dans le diocèse de Fréjus-Toulon, et pourquoi aussi le calendrier est un peu précipité ces temps-ci.
Alors l'événement, c'est aussi la messe dimanche prochain à Châlons-Champagne. On peut appeler les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, diocésains de Châlons, à venir vous rejoindre.
Oui, bien sûr, c'est important pour moi de rassembler, parce que ça fait partie de la mission de l'évêque, hein, c'est de rassembler le peuple chrétien. Et donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à participer à cette messe d'action de grâce et en même temps d'adieu, dimanche 3 décembre à 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. C'est l'église où j'ai mon siège épiscopal, la cathèdre. C'est là que j'ai présidé bon nombre de célébrations diocésaines, c'est là que j'ai enseigné le peuple chrétien. Et donc, il est important pour moi de vivre ce temps de prière. Bien sûr, ça sera suivi d'un verre de l'amitié avec le champagne, mais c'est une occasion pour moi de prier, de confier au Seigneur ce changement, tant pour moi, qui vais partir sur des chemins nouveaux, que le diocèse de Châlons, qui va entrer aussi dans une nouvelle étape un peu délicate de son histoire. Et puis c'est le moment de se rencontrer, c'est le moment d'échanger des paroles, d'amitié, de fraternité, de merci, de pardon, d'au revoir, d'adieu.
Alors, on se souvient, on ne va pas refaire et égrener tous les événements qui ont été nombreux dans ce diocèse depuis 8 ans, mais on se souvient quand même de votre ordination, parce que pour vous aussi, c'était un événement exceptionnel, ordonné évêque à Châlons, c'était en 2015. Cet événement, vous avez particulièrement marqué, je me souviens, il y avait du monde, c'était un changement pour le diocèse important et un changement également pour vous.
Bien sûr, mais c'est le chemin vocationnel. Nous ne faisons que répondre à des appels, l'appel fondamental du Seigneur qui nous est adressé à le suivre pour devenir des saints. Et lorsque j'ai été ordonné diacre, ensuite prêtre il y a 31 ans, et puis évêque il y a bientôt 8 ans, c'était le 28 février 2016, c'était toujours la réponse à une vocation, un appel de l'Église. Et dans cet appel de l'Église, j'y perçois l'appel du Seigneur. Donc oui, mon ordination épiscopale, c'était un moment important, un moment de prière, un moment de consécration de moi-même, où toute l'Église de Châlons était rassemblée avec beaucoup d'amis, d'invités de partout, et ma famille. Et là, il n'y a pas d'ordination. Je suis déjà évêque, on ne recommence pas l'ordination d'un évêque, simplement je change de diocèse, je suis envoyé dans un autre diocèse, pour y exercer une mission dans des circonstances un peu particulières, on va y revenir. Mais forcément, ce sont des événements qui marquent tout cela.
Alors c'est vrai, Monseigneur, quand vous arrivez à Châlons, vous découvrez un diocèse, un peuple de Dieu qui est en route, et vous avez tout de suite mis en route ce terme, cette expression d'espérance, en essayant de trouver dans les déserts de nos vies et des aventures de chacun, des îlots d'espérance et des oasis. J'ai retenu ce mot d'oasis, que vous l'avez souvent cité d'ailleurs.
Oui, c'est au cœur du projet missionnaire que nous avons pris le temps de travailler pendant les premières années de mon ministère ici à Châlons, projet missionnaire que j'ai publié en 2020, alors qu'on était en plein dans la entre deux phases de confinement, de déconfinement, de reconfinement, etc. etc. Mais l'idée, c'est bien celle-là, c'est de, à travers ce terme d'oasis, c'est de bien prendre conscience de la situation d'aujourd'hui qui est marquée par toutes sortes de fragilités, de pauvreté. Et donc, le fait de prendre conscience que nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas être partout, et donc il faut chercher à développer des lieux, des moments très forts, des équipes, des groupes humains qui vont servir de repères. Voilà, c'est ça l'idée pour la mission, pour que l'Église puisse déployer cette mission qu'elle a reçue du Christ. Voilà, j'avais fait une première lettre pastorale en 2016, 6 mois après mon arrivée, qui s'appelait « Disciples missionnaires ». Parce que je voulais répondre à la demande qu'on m'avait faite lors de mon ordination. On m'avait dit « Nous attendons de vous un nouveau souffle pour la mission ». Bon, eh bien, j'ai essayé de m'y employer en m'inscrivant dans le sillage du pape François, donc avec cette expression « disciple missionnaire ». En 2017, j'avais publié un autre texte qui s'appelait « Avance au large pour faire un pas de plus hein, dans ce renouveau, cette conversion pastorale et missionnaire que le pape appelle de ses vœux. Et puis en 2020, le projet missionnaire qui s'appelle « Prophète de l'espérance ». Dans mes armoiries épiscopales, il y a une encre. L'encre, parce que ça évoque mon attachement à la marine, au bateau, etc., pour différentes raisons familiales.
Vous n'êtes pas dépaysé à Toulon.
Non, effectivement, je vais me rapprocher de la mer. Parce que l'eau salée est un peu loin ici en Champagne, mais il y a le vin avec les bulles, mais il n'y a pas l'eau salée. Cette encre, elle est le symbole de l'espérance. Il faut que notre âme soit ancrée dans l'espérance. Vous voyez, c'est ça, ça vient de la lettre aux Hébreux. Et donc, j'essaye vraiment d'être un prophète, un témoin de l'espérance, alors qu'il y a beaucoup de raisons de se décourager, de désespérer. Les jeunes aussi, pour eux, c'est pas forcément facile. Eh bien, je pense que l'évêque doit être le premier témoin de l'espérance.
Il y a eu des signes d'espérance tout au long de ces années, on ne va pas les énumérer, des implantations de communautés, en particulier du côté de l'Épine. Ça, ce sont des événements qui ont beaucoup marqué. Et ailleurs, quand vous arrivez, en définitive, même si les contextes sont différents, même si chacun va essayer d'élaborer des théories entre des gens plus traditionnels, plus progressistes, plus avancés, c'est le même message que vous transmettez. Et si la réalité est un peu différente, vous vous trouvez confronté à la mise en œuvre de nouveaux oasis, d'une certaine façon.
Oui, il faut s'adapter, bien sûr, à la situation concrète, à la vie des gens, à la culture locale. Ce que j'ai fait en Champagne, en devenant Marnais, en allant à la rencontre des gens, eh bien, ça nourrit mon ministère. Et j'ai essayé d'être un évêque pour le peuple qui habite là, en Champagne, dans la Marne, dans le diocèse de Châlons. Et donc, en changeant maintenant de diocèse, je vais découvrir une autre façon de vivre. Hein, c'est la Côte d'Azur, etc. Bon, il y a beaucoup moins de communes. L'habitat ne ressemble pas du tout à celui de nos contrées. Dans le diocèse de Châlons, il y a 450 communes. Et dans tout le diocèse de Toulon, Fréjus-Toulon, il n'y en a que 150. Donc, il y a 80% de la population qui habite sur la côte. Et le reste, dans le Moyen-Var et le Haut-Var, c'est des paysages magnifiques, mais il n'y a pas grand monde. Donc je vais découvrir une autre mentalité, une autre façon de vivre et une autre histoire diocésaine. C'est un diocèse qui a une très grande tradition de l'accueil, l'accueil de communautés, de prêtres qui viennent d'autres pays, etc. Donc je vais, avec cette réalité-là, cette histoire dans laquelle je vais m'inscrire. J'arrive pas pour faire table rase du passé. Et puis, non, je vais m'inscrire dans cette histoire, dans cette réalité. Et du coup, dans ma prière, dans ma réflexion, dans mes échanges, ben je trouverai les pistes d'action à développer pour adapter mon ministère d'évêque à cette réalité-là.
Cette réalité-là, ce sont des prêtres peut-être plus nombreux aussi que...
Ah, beaucoup plus nombreux, oui, à peu près 12 fois plus qu'ici. Oui.
Donc la manière de vivre la pastorale dans des espaces missionnaires très larges, où il y a de nombreuses paroisses, ça ne va pas tout à fait exister dans le Var.
Non, j'ai rencontré les prêtres l'autre jour, on m'a dit qu'il y en a simplement une petite partie, enfin une moitié environ, ils étaient 155 devant moi. Mais il y a des prêtres qui ont 3 villages. Donc c'est une situation qu'on connaissait ici dans la Marne il y a plusieurs dizaines d'années. Donc c'est très différent. Peut-être justement, ce qu'il va me falloir aussi développer, c'est le fait d'associer les fidèles laïcs davantage. Il y a des équipes, il y a des laïcs engagés. C'est un diocèse qui a un potentiel assez extraordinaire, une grande vitalité, mais de fait, ça repose beaucoup sur les prêtres, puisqu'ils sont très nombreux. Donc je pense que j'ai ça un petit peu au programme dans ma mission, c'est de développer cette collaboration qui est belle, qui est féconde. C'est pas, il y a pas de lutte de pouvoir, il faut vraiment qu'on sorte de toutes ces logiques-là, de revendiquer ceci contre cela et un tel contre telle autre personne, mais de trouver la belle complémentarité qui existe entre les fidèles baptisés, confirmés, et puis ceux qui ont reçu en plus l'ordination, faisant d'eux des serviteurs de leurs frères et sœurs, pour les conduire justement sur ce chemin à la suite du Christ vers la sainteté. Donc c'est ça qu'il nous faut essayer de construire.
Dimanche, on entre dans l'Avent, Monseigneur, cette période qui nous approche de la lumière et d'une espérance. Et quand vous allez arriver justement le dimanche suivant dans le Var, à Toulon, vous allez donc, j'allais dire, inaugurer ce temps de l'Avent, partager ce temps avec Monseigneur Ray, qui est actuellement en fonction dans le diocèse, et vous êtes son coadjuteur. On pourrait vous interroger éternellement sur savoir qui fait quoi, est-ce que l'un plus... Enfin, bon, le problème n'est pas tout à fait là. Vous êtes sans doute, vous avez des responsabilités importantes, officielles, et vous allez travailler avec Monseigneur Ray.
Bien sûr, mais c'est une situation assez inédite quand même. Et donc, on peut évoquer, bien sûr, ce qu'on appelle en droit canonique les facultés spéciales, ou alors les pouvoirs spéciaux que le pape me confie, et qui sont autant de réalités que Monseigneur Ray va me céder. Hein, mais nous avons choisi de travailler ensemble dans la confiance, dans une véritable fraternité, dans ce cadre qui est défini par Rome, et qui définit bien qui précise bien les responsabilités de chacun. Moi, au-delà de tout cela, si vous voulez, ce qui me semble important pour moi d'exprimer ce soir, lors de ce dernier 18-19 que je vis ici sur RCF Cœur de Champagne, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Moi, c'est l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, le Sauveur. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me donne du dynamisme, c'est ça qui nourrit mon espérance. C'est pas de savoir si je vais gérer les finances du diocèse de Fréjus-Toulon ou si je vais avoir plus ou moins de pouvoir que Monseigneur Ray. Voilà, je crois que c'est important de bien... Et parce que vous voyez, c'est un petit peu... À une autre échelle, j'évoquais les tensions qu'on peut rencontrer parfois dans la vie d'une paroisse, d'un espace missionnaire. Mais si on en reste à des questions de pouvoir, de savoir qui fait quoi, etc., on ne regarde pas assez loin, en tout cas pas assez haut. Et il me semble important, pour nous chrétiens, et puis pour tous les hommes de bonne volonté qui nous écoutent, on a toujours, comme on dit couramment, un peu le nez dans le guidon, on regarde les choses, et puis du coup, il n'y a rien qui va. On passe son temps à se plaindre, à se décourager, à dénigrer les autres. Donc, je crois qu'il faut que nous apprenions à regarder plus haut, plus loin, parce que c'est ça qui nous donne de belles perspectives, c'est ça qui permet à chacun de déployer les talents qu'il a reçus et de contribuer à la construction d'une société, mais aussi d'une église qui soit vraiment qui ouvre ces chemins d'espérance. Enfin, en tout cas, vous voyez, ma mission d'évêque, c'est ça. C'est l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, parce que je crois que Jésus est le sauveur de tous les hommes, qu'il est ressuscité des morts, qu'il a vaincu toutes les formes de souffrance. Et ça, moi, je le proclame du matin au soir. Voilà. Après, il faudra, dans la responsabilité d'un évêque, il faut assumer le gouvernement, il faut assumer la répartition des prêtres, il faut assumer la supervision de l'immobilier, des ressources humaines, de bien des choses.
On le disait avec humour, Monseigneur, on ne va pas rester à cette photographie, j'allais dire presque polaroïde, qui consisterait à dire voilà, quelqu'un qui était dans la marine, il aime bien la Méditerranée, il aime bien les coups de vent. Bon, c'est sûr aussi, mais vous avez eu ici aussi une expérience avec des communautés, vous avez dû gérer des problèmes délicats, difficiles, sur des dossiers dont certains auraient pu penser qu'on n'aurait pas pu s'en sortir. Vous en êtes sorti, ça veut dire que cette expérience vous a forgé quand même pour affronter quand même des problèmes qui peuvent se poser avec des communautés nouvelles, anciennes, modernes, traditionnelles. Bon, vous allez vous trouver quand même dans ce... Mais là, vous allez savoir quand même peut-être davantage avec l'expérience gérer ce type de situation.
Oui, oui. Dans le Var, je vais trouver ce que Mgr Rey appelle une biodiversité ecclésiale.
Oui.
Ici, j'ai eu une expérience, non seulement le diocèse de Chalon, avec toutes les réalités qu'il a fallu accompagner, mais de fait, dernièrement, 2022-23, l'accompagnement de la communauté du Verbe de vie pour la conduire vers sa dissolution. Et donc, j'ai fait de mon mieux. Moi, c'est pas à moi de dire si ça a été bien fait ou pas, mais j'ai cru comprendre que tout le monde était plutôt satisfait
dans la presse nationale, ça a été salué quand même. Hein.
Et j'ai essayé en tout cas de déployer ce qui fait partie de ma personnalité, je pense. C'est à la fois une humanité qui se traduit par une capacité d'écoute, d'accompagnement, de la bienveillance, de la bonté, de la douceur. Et en même temps, dans ma personnalité, cette capacité aussi à exercer l'autorité qui m'est confiée. Pas l'autorité du petit chef qui gueule pour se faire entendre, mais c'est l'autorité de celui qui est responsable et qui, par sa simple présence, par les décisions qu'il va prendre, par aussi sa capacité à suivre la mise en œuvre des décisions, parce qu'il ne suffit pas de les prendre, il faut encore voir si elles sont prises et comment ça se passe. Donc à la fois de l'humanité et puis l'autorité, voilà. Et je pense que ça la conjugaison de tout cela a fait en sorte que peut-être les autorités de l'Église m'ont repéré comme peut-être celui qui pouvait aller aider le diocèse de Fréjus-Toulon dans la situation actuelle. Et puis peut-être, comme je le dis aussi couramment, il y a peut-être des petits copains qui m'ont dénoncé.
Hein. Ah, c'est possible.
Et du coup, qui ont donné mon nom, en disant vous devriez peut-être lui demander à lui. Bon.
Oui, peut-être voilà. Que dans l'épiscopat, il y a des petits copains comme ça.
Ça arrive. On se fait des cadeaux comme
on
ça.
On se fait des cadeaux. Qui ne sont pas empoisonnés parce qu'on est certain. On l'a déjà. On vous l'avait fait ressentir. Que si on le fait, c'est parce qu'on vous sent sans doute quand même capable d'affronter ce genre de difficulté.
Entre évêques, nous nous connaissons, nous voyons bien les capacités que chacun peut dévoiler. Et donc, donner le nom d'un confrère, c'est aussi reconnaître justement les talents qui sont les siens. Voilà.
On va avoir l'occasion, bien sûr, de nous retrouver dans une dizaine de minutes, puisqu'il est pratiquement 18h30. C'est l'heure du journal régional avec Alexis Claudrette qui est avec nous et avec nos deux jeunes, Manon et Kylian, qui nous accompagnent ce soir.
Les titres de ce jeudi 30 novembre 2023, les festivités de Noël sont de retour à Châlons-en-Champagne. Une quarantaine d'exposants sont installés au cœur de la ville avec plusieurs animations, notamment les crèches de l'église Saint-Alpin. Les actions des bénévoles du Secours catholique sont essentielles pour aider financièrement et psychologiquement les bénéficiaires de l'association. Rencontre avec Élodie et Marcel.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Les chalets du marché de Noël et les illuminations prennent leur quartier au centre-ville de Châlons-en-Champagne. À moins d'un mois de Noël et de ses festivités, la ville de Châlons lance les hostilités ce vendredi 1er décembre. Demain, Natacha Niquès, conseillère municipale en charge des événements.
On va avoir trois pôles distincts pour le marché de Noël. Place Foch qui va être plutôt la partie artisanat. On va avoir le pôle fripier qui restera toujours le pôle gastronomique. Et la place de la République qui sera plus le pôle familial où on pourra retrouver le manège et on aura une patinoire en synthétique qui sera derrière le manège sur les deux premiers modules de la place de la République.
Le marché de Noël accueille cette année une quarantaine d'exposants habitués ou nouveaux. Les premiers exposants ouvriront leur chalet demain à 14h, tandis que la municipalité inaugurera les illuminations à 18h15 avec une déambulation d'une batucada lumineuse. En parallèle, plusieurs expositions, notamment le chemin des crèches. Sabine Bourbrock, responsable de l'exposition de crèches en l'église Saint-Alpin.
Cette année, le thème est centré sur les origines de la crèche parce que nous fêtons un centenaire, 1223-2023. Il y a en effet 800 ans, à l'initiative de François d'Assise à Gréccio, naît la tradition de la crèche hein, autour de cette première messe de Noël qui a été organisée par François d'Assise autour d'une crèche vivante. Et c'est de là que naît cette tradition des crèches au moment de Noël. Et pour retracer cette histoire, l'exposition rassemblera cette année des crèches en provenance de 100 pays. Le nombre n'est pas un hasard. Ce 8e centenaire va aussi nous fournir l'exposition de faire une plongée dans le chalon de l'époque médiévale pour évoquer Notre-Dame-en-Voûte, le couvent des Cordeliers et puis les récollets. Avec le concours des services culture de la ville, nous présenterons ces éléments patrimoniaux.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le chemin des crèches est à découvrir du lundi au jeudi de 14h à 18h, du vendredi au dimanche de 14h à 19h à l'église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne. Une programmation très riche pour un coût d'environ 190 000 euros. On est ce soir avec Monseigneur François Touvet. Monseigneur François Touvet, cette exposition de crèches, elle vous a marqué tout au long des années que vous avez passées ici dans le diocèse de Châlons?
Oui, chaque année. Ou presque, j'ai pu la visiter effectivement, selon le thème qui était choisi. C'est un beau moment de rassemblement, d'émerveillement aussi, je crois, devant toutes ces crèches qui sont présentées. Et j'aime bien aussi, tout en regardant les crèches, observer la réaction des personnes, des familles, des enfants. Voilà, l'émerveillement. Je pense que nous sommes dans un monde parfois terne, un peu triste, sans perspective, avec beaucoup d'inquiétude ou d'angoisse, eh bien, de savoir nous émerveiller en ce temps de Noël qui approche, voilà quelque chose qui me semble vraiment une belle invitation à tous. Et devant la crèche de Saint-François d'Assise, eh bien, il y a de quoi vraiment ouvrir nos cœurs, nos âmes et regarder haut et loin.
Une question de Jean-Pierre Benoît.
Je voulais simplement dire que vous allez retrouver les 100 ans de Provence. De toute façon, vous n'allez pas être dépaysé.
Non, bien sûr, bien sûr. On a développé depuis quelques années aussi un petit commerce de 100 ans de Provence à la boutique de Notre-Dame de l'Épine. Donc c'est le point dans la région où on peut trouver des 100 ans de Provence qui viennent d'Aubagne. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose que j'aimerais dire ce soir. On va tous faire la crèche à la maison, etc. On va visiter l'expo des crèches, bien. Mais si chacun devenait une sorte de petit centon, chacun avec ce qu'il est, avec sa façon de vivre, et puis qui cherche à s'approcher de la crèche pour s'émerveiller, pour entrer vraiment dans le mystère de Noël. C'est ce que je souhaite à chacun.
18h34, vous suivez le 18-19 en Champagne, c'est le journal. Le maire de Sedan, Didier Herbillon, a reçu le prix du trombinoscope de la région Grand Est de maire de l'année. Une reconnaissance pour le travail réalisé afin, depuis 3 mandats, d'inventer un avenir à sa ville, selon les membres du jury. Une distinction qu'il a dédiée à son équipe, son épouse et aux Sedanais, comme il l'a affirmé sur son compte X, anciennement Twitter. Au moment où l'on se parle, une belle preuve d'amitié entre deux structures rémoises est en train de se sceller, Kylian.
Effectivement Alexis, amitié et entraide sont à l'honneur avec le Lady Sark Club Service, regroupant des femmes de 18 à 45 ans pour favoriser des liens privilégiés entre les femmes qui rejoignent la structure afin de développer des actions au profit des associations locales, nationales, internationales et le centre ressources de Reims qui accompagne les personnes atteintes de cancer et leurs aidants. Suite à une action proposée par le Lady Circle, menée en collaboration avec le magicien et mentaliste Cyril Regard, les femmes de l'association ont récolté 800 euros. Une somme qu'elles viennent de remettre il y a quelques minutes sous forme de chèque pour soutenir le centre ressources de Reims.
Merci Kylian. Et alors le Lady Circle, c'est le nom de l'association. Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui découvrent cette langue, c'est le cercle de femmes tout simplement. C'est une association, on l'a bien compris. Ce sont souvent des femmes qui se regroupent entre elles. Jean-Pierre.
Oui, vous m'avez regardé quand on ne parle pas anglais. Parce
mais vous
que
parlez très bien allemand, en revanche.
Originaire des Ardennes, vous savez, nous avons beaucoup à apprendre. Et donc, nous avons toujours un parler un peu spécial. Mais l'accent provençal, vous allez l'avoir, Monseigneur Touvé.
Mais peut-être qu'il va venir tout doucement, par imitation.
On continue ce journal. Lors de la présentation du dernier rapport statistique du Secours catholique, il y a quelques semaines déjà, basé sur les chiffres 2022, on dénombre à travers la France plus d'un million de personnes rencontrées, pour 60% des adultes, souvent des femmes isolées, et pour 40% des enfants, une tendance qui se confirme localement. Élodie, maman de 2 enfants, s'est retrouvée en situation de précarité après le décès de son conjoint et après avoir subi un dégât des eaux à son domicile, des aléas qui l'ont poussé à aller toquer à la porte du Secours catholique Marne-Ardenne.
Quand on est dans cette situation-là, on n'a pas le choix, c'est qu'à un moment donné, c'est de prendre son courage à deux mains et de pousser les portes qui peuvent nous aider. Honnêtement, je me suis dit, je vais exposer ma situation et voir ce qu'on peut m'aider à faire. Et j'ai trouvé un soutien financier, un soutien moral et vraiment pas de jugement. Alors c'était très rapide. Parce que quand j'ai poussé la porte du Secours catholique, j'ai rencontré déjà Marcel qui m'a proposé d'étudier le dossier. Et peu de temps après, j'avais une réponse que c'était positif pour mon aide. Et puis elle a pas lâché l'affaire, elle a continué à me soutenir. Vraiment, ça s'est fait vraiment très court instant.
Pour Marcel, bénévole depuis plus de 10 ans au sein du Secours catholique, accompagner Élodie comme d'autres bénéficiaires est quelque chose qu'elle fait de bon cœur.
Moi, je vais facilement chez les gens. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui peuvent pas se déplacer. Parce qu'ils sont malades, quelquefois ils sortent de l'hôpital, c'est souvent un peu compliqué. Ou alors ils habitent dans une petite campagne et ils n'ont pas trop le moyen de venir sur Reims. Donc je vais chez eux et puis on étudie ensemble leurs difficultés et puis tout leur bonheur, parce qu'ils en ont souvent beaucoup. Et je ne repars jamais de chez eux sans avoir un sourire ou sans qu'ils me disent que ça leur a fait du bien. Et ça, c'est le plus important. S'ils n'ont pas souri, c'est pas la peine, c'est que j'ai pas fait bien mon travail. Mais bon, des fois, j'y arrive pas. Des fois, ils sont tellement mal que j'y arrive pas. Mais dans l'ensemble, c'est rare qu'ils aient pas un sourire au moment où ils partent.
Les antennes du Secours catholique dans la Marne et les Ardennes, composées de 9 salariés et plus de 550 bénévoles répartis à travers 31 lieux d'accueil, ont accueilli et accompagné plus de 3500 personnes en 2022. Sport, basket, désillusion pour les Flammes Carolo, battus sur leur parquet par les Tchèques de Brno hier soir, 70-74 dans le 6e et dernier match de poule d'Eurocoupe féminine. Un revers qui fait reculer les Ardennaises à la 3e place de leur groupe et qui devront attendre les résultats des 7 matchs du jour pour savoir si elles sont repêchées parmi les meilleurs 3e pour les 16e de finale de la compétition. Pas de retournement de situation non plus en volley pour Chaumont, qui après s'être incliné au match aller en 16e de finale de CEV face à Nantes, n'a pas réussi à renverser la vapeur hier soir lors du match retour. Au Palestral et au Marnais ont concédé une défaite 3-7-2 qui les élimine de la compétition européenne. À 18h39, avant de refermer ce journal, place à la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Manon Bréval. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices.
Alors quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi ?
Demain, nous aurons le droit à une journée un peu plus enthousiasmante que les jours précédents. Pour les Ardennes, le soleil sera de retour, de la brume dans l'aube, quant à la Marne et la Haute-Marne, des nuages épais pour cette matinée. Le mercure de vos thermomètres descendra au minimum à 1 degré et montera au maximum à 4 degrés. Quelques éclaircies à Épernay pour ce vendredi après-midi. Le temps restera semblable à ce vendredi matin, tout comme la température sur votre joli territoire. Une brise légère vous accompagnera tout au long de cette journée. Cependant, restez attentifs, les Ardennes et la Marne restent en vigilance, jaune, neige, verglas et crue. Au cours de la nuit, la neige pourra faire son apparition avec quelques flocons. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Florence. Bonne soirée à toutes et à toutes.
Merci Manon, on se joint à vous pour souhaiter une bonne fête à toutes les Florence. On vous retrouve demain avec d'autres tendances météo. Avant de refermer ce journal, c'est du direct nos confrères de l'Union qui nous informent. Si vous êtes sur la route, faites très attention. Un accident sur la traversée urbaine de Reims. Plusieurs kilomètres de bouchons. Le bouchon qui s'étend de Tinqueux jusqu'aux environs de Cormontreuil. Il est survenu en début de soirée ce jeudi 30 novembre. C'est dans le sens Metz-Paris et il remonte au-delà de l'échangeur Saint-Rémy depuis la commune de Tinqueux au niveau des jardins familiaux. Un accident est en cause sur lequel aucune information n'est pour l'instant disponible d'après nos confrères de l'Union. Donc prudence si vous êtes sur la route. 18h40, Monseigneur François Touvet est l'invité de Jean-Pierre Benoît dans ce 18-19 en Champagne.
Eh bien oui, 18h40, 19h, nous sommes en direct avec vous, Monseigneur Touvet. On a évoqué des sujets, mais on se dit au fond, et vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, des hommes à la recherche du sens, à la recherche de l'espérance. Il y en a à Chalon, à Épernay, à Cézanne, mais il y en a certainement du côté de Brignoles, du côté de Fréjus, de Toulon, et puis dans toutes ces routes varoises. Tout le monde cherche finalement à gravir une montagne et à trouver un chemin.
Bien sûr, je crois que partout, et l'évêque envoyé par l'Église est amené à rencontrer toutes ces personnes qui cherchent du sens ou qui s'interrogent en tout cas sur le sens de leur vie et qui ont besoin de d'éclairage, qui ont besoin au moins d'une rencontre, d'un dialogue, d'un échange. Alors après, bon, il revient donc au pasteur de témoigner de façon explicite. Je crois que c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Je serai amené à bien sûr à parcourir le Var, le diocèse de Fréjus-Toulon, et tout d'abord, dans un premier temps, je vais me consacrer à la rencontre des prêtres, des diacres et des communautés, puisque ça fait partie justement des responsabilités que le pape me confie directement. Et donc, je vais prendre avec ma voiture le temps d'aller les rencontrer, les écouter, pour bien comprendre aussi ce qu'ils vivent. J'ai déjà pris du temps la semaine dernière en me rendant à Toulon pendant plusieurs jours avec beaucoup de rendez-vous, de travail, de prise de contact. J'ai passé du temps aussi au grand séminaire de l'Immaculée Conception à la Castille. Il y a aussi un autre séminaire du Néo-Catéchuménat, c'est un séminaire Redemptoris Mater à la Seyne-sur-Mer. Donc ça fait à peu près 70 jeunes hommes qui se préparent à être prêtres dans le Var. Donc c'est une belle réalité. Et j'ai senti leur soif justement de témoigner explicitement de leur foi, de leur attachement au Christ. Et le Var n'est pas, d'après ce que l'on m'a dit, n'est pas plus chrétien qu'ailleurs hein, en moyenne. Voilà. Il y a une certaine forme de vitalité, une population nombreuse, il y a la qualité de vie, etc. Un clergé nombreux, mais finalement ce clergé, peu nombreux sont ceux qui sont vraiment issus du Var. C'est un petit peu comme ici à Chalon. Peu nombreux sont les prêtres qui sont vraiment de la Marne et de Chalon. Heureusement que nous avons ces échanges, ces apports de prêtres qui viennent d'autres pays, d'autres continents même, qui ont une autre culture, une autre expérience d'église, et ça enrichit beaucoup la mission. Je crois que l'expérience, en tout cas Monseigneur Ray parle beaucoup d'un laboratoire, le fait d'avoir accueilli comme ça très largement, alors peut-être que pour certains, il y a des choses un peu à ajuster, mais en tout cas le fait d'avoir accueilli largement et d'offrir cette grande diversité aide à sortir un peu des étiquettes que l'on se colle parfois entre catholiques français en disant « t'es comme ça, t'es un conservateur, t'es un progressiste et tout », mais non, essayons d'être catholiques. Qu'on soit conservateur, progressiste, là n'est pas la question. Essayons d'être catholiques, essayons d'être des disciples de Jésus, des missionnaires de l'Évangile, des enfants de l'Église. Essayons de témoigner ensemble par notre charité fraternelle de la présence du Christ. C'est ça vraiment qui me tient à cœur et que j'aurai tout le temps, bien sûr, d'accompagner dans le diocèse de Fréjus-Toulon.
Il faut dire, Monseigneur Touvet, que pour l'Église, ces derniers mois, il y avait des signes d'espérance qu'on a ressentis au moment des JMJ auxquels vous avez participé, ou à le rassemblement de Kérigma à Lourdes. Et il y a beaucoup d'événements, sans trahir de secret. Manon, tout à l'heure, vous l'avez confirmé dans un village, et ça l'a marqué, puisqu'elle nous en a parlé tout à l'heure en voiture. Ça veut dire qu'au fond, il y a toute une dynamique, mais comment convertir cette dynamique où tout le monde se rassemblait à un moment donné, à un point donné, dans une vie du quotidien où tout est à construire?
Mais il faut se rencontrer. Le pape insiste beaucoup sur la dynamique de la rencontre, du dialogue. Moi, si je rencontre pas les jeunes que je vais confirmer, j'arrive un beau matin à l'église avec ma mitre sur la tête et ma crosse à la main. C'est la première fois qu'ils me voient. Ils se disent, c'est qui ce type-là? Je préside la messe, je confirme, j'impose les mains et je m'en vais. Non. Je prends le temps de les rencontrer. Je prends le temps de répondre personnellement à leurs lettres de demande de confirmation. Parce que c'est l'occasion pour moi de leur donner mon témoignage. Ils voient bien ce qui m'habite. J'essaie, quand je les rencontre, j'essaie de parler avec mes tripes, avec ce que je porte dans mon cœur. Et d'ailleurs, pour cette messe du dimanche 3 décembre, messe d'action de grâce, à la fin de mes presque 8 années de ministère ici, j'ai voulu inviter, adresser un petit message, j'espère que Manon l'a reçu, une invitation à tous ceux que j'ai confirmés.
Mais Manon l'a reçu, Manon.
Mais pour leur dire quoi? Pour leur dire, pour leur dire, on a vécu quelque chose à un moment donné de ton histoire de chrétienne, Manon. Tu m'as rencontré, j'étais là comme l'évêque, on a pris le temps du dialogue, j'ai répondu à ta lettre, une carte personnelle, c'est pas un truc pré-imprimé. Bon. Et puis il y a eu la célébration de la confirmation, où j'espère que il y a des choses qui t'ont marqué et qui pourront t'aider aujourd'hui et demain. Mais donc, n'en restons pas là. L'évêque s'en va, moi je dis au revoir. J'ai vécu des choses formidables dans ces rencontres avec les jeunes confirmants, avec les adultes qui demandent le baptême. Donc je les ai invités pour qu'on puisse dire merci ensemble, nous réjouir, puis prier les uns pour les autres.
En tout cas, on aura l'occasion. Manon, tu vas ajouter quelque chose? Tu étais d'une certaine façon, non pas interpellé, mais toi-même, tu avais reçu cette invitation de Monseigneur Touvet. Donc voilà, tu étais invité, tu étais heureuse d'être invité finalement.
Oui, effectivement, vous avez été très présent pour tous les jeunes qui ont voulu se faire confirmer. Vous avez été là quand nous sommes partis en pèlerinage pour les jeunes confirmants à Lourdes. Je me souviens très bien aussi des temps de rencontre qu'on a eu avant la confirmation. Vous m'avez bien dit que Jésus était toujours derrière mon cœur à taper à la porte et qu'il est le cœur de derrière tout le monde et qu'il tape à la porte, qu'il attend juste qu'on lui ouvre la porte pour venir illuminer notre vie.
Tu as retenu ça et tu en vivras toute ton existence.
Manon, Jésus n'est pas dans le smartphone, sur les fameux réseaux sociaux où tous les jeunes sont épanchés, passent des heures et des heures, passent parfois la nuit en arrivant dans un état semi-comateux à l'école. Qu'est-ce que tu en penses de cette société de communication chère à Monseigneur Touvet, qu'on va l'évoquer justement, puisqu'il a les responsabilités dans ce domaine?
Moi, je pense qu'il faut vivre le moment présent et pas rester focalisé sur les réseaux sociaux, pouvoir partager et vivre des temps ensemble, c'est très important.
Oui, mais les réseaux sociaux, il ne faut pas les mettre de côté non plus. Je suis, moi, comme chargé de la communication aussi, enfin, au nom des évêques, soucieux de dire, mais sachons, le pape Benoît XVI disait cela, il faut conquérir le continent numérique. C'est-à-dire, si nous, on a 3 métros de retard, enfin des métros ou des trains, je ne sais pas. Mais si on n'est pas à la page, si on est toujours avec 50 années de retard, on n'annoncera pas l'Évangile. Aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile, la mission, elle passe aussi par les réseaux sociaux. Je le fais moi-même et je sais qu'il y a une répercussion. Je sais qu'il y a des gens qui ils me suivent. C'est pas pour que je sois heureux de regarder mes statistiques tous les matins. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la vie de l'Église. Des gens que ça intéresse de lire l'homélie que j'ai prononcée à telle ou telle occasion. Parce que ça peut les aider. Voilà. C'est pas pour mettre en vedette telle ou telle personne, mais c'est pour partager ce qui m'habite et ce dynamisme intérieur spirituel et cet élan pour la mission et cette grande espérance que j'ai dans mon cœur.
La conférence des évêques de France, Mgr François Touvet, vous a confié une mission dans le domaine de la communication. Cette mission va se poursuivre. Le fait d'être à Toulon ne met pas un terme à cette mission.
Ah non, à Toulon on communique aussi. À Toulon, on communique j'ai un mandat comme président du Conseil pour la communication qui s'achèvera le 30 juin 2024. Ça fera déjà 3 ans que j'aurai exercé cette mission. Pour l'instant, je suis concentré sur un chantier bien précis qui est une réflexion sur toutes les radios chrétiennes catholiques en France. Elles sont très nombreuses, un peu en ordre dispersé.
C'est pas le trop-plein, monseigneur?
Le trop-plein.
De radio chrétienne, un peu partout.
Ah, moi, j'attends les conclusions du groupe de travail. Je pilote un groupe de travail. On étudie, on regarde un petit peu la réalité et on va chercher, et y travailler d'ailleurs avec ceux qui sont dans toutes nos radios, on va essayer de définir des priorités, des orientations pour l'avenir. J'en entrevois déjà, mais je ne vais pas les dire aujourd'hui. Voilà. Mais je réfléchis, j'accompagne ce groupe de travail, je le pilote, je vois bien qu'il y a des points d'insistance. Il va falloir, je pense, nous allons proposer aux évêques et ils pourront voter, se déterminer là-dessus pour que le message soit transmis ensuite à toutes les radios en disant « Nous, évêques de France, voilà ce qu'on demande à nos radios. Voilà, travaillons comme ci, comme ça, etc. Renouvelons-nous, rapprochons-nous, etc. Partageons. » Enfin voilà, vous voyez, il y a des mots déjà.
Il y a une question quand même qui se pose. Je sais que vous n'allez pas pouvoir y répondre ce soir. C'est, il y a des radios qui sont dans un système de modulation de fréquence, de FM, et qui garantissent une forme de proximité qui est très importante. C'est le cas de RCF Cœur de Champagne, c'est le cas de RCF Reims-Ardennes. L'émergence du DAB+, qui est nécessaire, qui a été adoptée par tous, sur des zones beaucoup plus étendues, garantissent peut-être un peu moins cette proximité. Vous qui êtes attaché aux espaces missionnaires, aux proximités, quel est votre sentiment?
Bien sûr, les choses évoluent. Il nous faut bien accepter que la technologie évolue et il faut nous adapter à cette technologie. Donc le DAB+, on en parle, c'est la radio numérique.
Voilà, vous faites bien préciser.
Parce que ça, c'est le jargon des techniciens.
Oui.
Bon, mais j'avais compris quand même.
Oui, vous aviez compris, mais c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément.
Voilà, mais de fait, la radio numérique qui s'installe de plus en plus en France va se déployer principalement à l'échelle des régions ou sur le plan national, métropolitain. Donc, je pense qu'il faut accompagner ce mouvement. Et bien sûr, la FM permettait et permet encore cette grande proximité avec le local. Mais je pense qu'avec un peu d'astuce, un peu de réflexion, eh bien, on peut préserver aussi cette proximité, même sur des radios qui vont devenir de plus en plus des radios régionales.
Et vous allez retrouver d'ailleurs ce dossier dans le Var, avec bien sûr RCF et
puis
bien sûr d'autres.
RCF Méditerranée. Et puis je voudrais aussi souligner une chose avec le groupe de travail, c'est que de moins en moins les gens écoutent la radio. De plus en plus, ils écoutent de l'audio sur leur smartphone, etc. Et donc, il y a certainement des recherches à faire aussi du côté de nos radios pour permettre à des auditeurs qui vont simplement écouter des audios, du son, etc., sur leur téléphone, eh bien d'être en relation avec nos radios et qu'ils puissent percevoir ce beau message que nous avons à partager.
Alors on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver justement par les ondes de RCF, puisque nous sommes forcément sur le réseau national. Alors votre calendrier des prochains jours, c'est donc, vous l'avez dit, la messe d'action de grâce à Châlons, c'est l'arrivée. Alors le lendemain matin, ça y est, le camion de déménagement, vous allez à Toulon, ça se passe comme ça?
Oui, ben là nous sommes jeudi soir, demain matin à 7h30, on charge le camion. Ensuite, je participe au Rassemblement National des Séminaristes samedi à Paris, où j'aurai la joie de retrouver les 2 séminaristes de Châlons et les 60 ou 70 de Toulon. Et dimanche, je serai bien sûr à la cathédrale pour cette messe d'action de grâce au cours de laquelle je ferai mes adieux à Châlons, parce que je le dis sans, c'est pas de la tristesse, j'ai le cœur gros de partir forcément. Mais je ne le dis pas pour dédaigner les diocésains de Châlons, mais je ne reviendrai pas. Je reste ami avec chacun, mais je laisserai l'église de Châlons poursuivre sa route avec les responsables et le futur pasteur qui lui sera donné. C'est important dans l'église de respecter cette succession. Voilà.
Alors, ça bien peut sûr, prendre d'ailleurs un certain temps.
J'aurai l'occasion ponctuellement de revenir une fois ou l'autre, bah peut-être pour l'ordination ou l'installation de mon successeur.
Ça peut prendre un certain temps.
Ça peut prendre quelques mois, oui, il faut être patient là.
Oui,
mais vous voyez, je pars non pas pour abandonner, mais je garde dans mon cœur tout ce qui a été vécu, toutes ces amitiés qui ont été nouées. Mais il me faut aller maintenant pleinement dans la responsabilité qui m'est confiée. Et on ne peut pas, je ne suis pas propriétaire de ma mission. Voilà. Donc j'ai appris ça déjà en quittant des paroisses en Côte d'Or ou en Haute-Marne. On part. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout, mais on a semé et la moisson ne nous appartient pas. Voilà. Je crois que ça, pour moi, c'est très important. Donc, installation au cours de la semaine prochaine, installation matérielle. Je vais m'installer dans le domaine de la Castille, là où il y a le grand séminaire, toute une exploitation viticole, un bon vin de rosé, Côte de Provence, que je recommande à tout le monde, sur Internet, on peut le trouver, domaine de la Castille. Et puis, faut bien que je fasse déjà la promotion de tout cela. Ça me changera du champagne, quand même.
Il y a des amateurs, ouais. Les uns et les autres.
Après le vin de Bourgogne et le champagne, je vais découvrir le charme du rosé de Provence.
Les bandoles, les côtes de Provence, voilà. Les aigues de Provence, etc. Ah, oui, on aime bien aussi.
Et puis donc le samedi 9 décembre, il y a la fête du séminaire où je participerai. Monseigneur Ray présidera le rite d'admission et d'institution de quelques-uns des séminaristes. Et puis le lendemain, ça sera la messe d'accueil dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors c'est une messe présidée par le cardinal Avelines, qui est l'archevêque métropolitain là-bas, en présence du nonce apostolique qui représentera le pape. Et donc, dans la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Toulon. Et je vais simplement, au début de la messe, je vais présenter à Monseigneur Ray la lettre apostolique, c'est-à-dire la bulle de nomination, le texte par lequel le pape me désigne comme coadjuteur à Fréjus-Toulon avec les facultés spéciales qu'il a précisées. Et donc, comme cela, tout le monde en aura connaissance et ensuite nous allons concélébrer les deux évêques de Fréjus-Toulon autour du cardinal Avelines. Et puis je m'adresserai bien sûr au peuple de Dieu de Fréjus-Toulon à l'issue de la messe. Et puis le lendemain matin, ça sera au travail.
Au travail. Changement aussi pour la province, vous venez de le mentionner au détour d'une phrase, puisque dans la province, là, on évoquait le diocèse de Reims avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui est actuellement à Malte avec les présidents de conférence épiscopale d'Europe, ou avec Mgr Véteux, qui lui se trouve à Rome avec la commission internationale théologique. Vous allez tous vous retrouver, d'ailleurs, ils nous ont dit, on va aller au rassemblement des séminaristes à Paris.
Oui, bien sûr. C'est un événement magnifique de retrouver tous ces jeunes hommes qui se préparent à devenir prêtres. Moi, je garde en mémoire tous ces jeunes, ces 45 000 jeunes que nous avons rencontrés à Lisbonne, aux Journées mondiales de la jeunesse. Je garde en mémoire la foule qui a envahi le stade Vélodrome pour la messe célébrée par le pape au mois de septembre. Donc, nous sommes pleins d'espérance. Et ces jeunes hommes, nous les accompagnons pour un évêque. C'est magnifique d'accompagner tous ces jeunes hommes dans leurs études, leur formation, leur discernement. Et au bout d'un moment, de les appeler pour devenir diacre, prêtre. Donc c'est un moment important pour l'Église de France ce samedi 2 décembre. Voilà. Mais voilà, tout le monde connaît mon agenda maintenant. Vous pouvez me saluer au bord de la route comme pour le Tour de France. Vous me verrez passer entre Châlons et Toulon. Il y a 8 heures de route quand même. 8 heures de route par l'autoroute. Raisonnablement quand même.
Oui, en roulant déjà pas mal.
Mais bien.
Il faut déjà les
assurer. 820 kilomètres.
En tout cas, Monseigneur Touvet, permettez-moi au nom de ceux qui sont dans ce studio, avec les personnes de Châlons, vous l'avez déjà fait abondamment ces jours-ci au cours d'autres émissions, au nom dans le 18-19 de vous remercier encore d'avoir été là aujourd'hui, dans une émission qui avait été créée il y a quelques années et qui durera ce qu'elle durera. Elle est comme toutes les choses qui ont été créées et qui peuvent évoluer. Une émission commune en 18-19 entre Reims et Châlons, avec bien sûr les petits moyens dont nous disposons, parce que nous n'avons pas une équipe de 23 journalistes pour assurer des journaux d'information. En tout cas, on était très heureux quand même d'être avec vous et de vivre cette communion qu'on a sentie d'ailleurs aussi entre les évêques. Je vous laisse le mot de la fin, Monseigneur François Touvet.
Oui, merci beaucoup. Vous savez mon attachement à la radio diocésaine, RCF Cœur de Champagne. J'ai beaucoup travaillé aussi à ce que les diocèses de Champagne travaillent ensemble pour le développement de nos radios respectives et du coup de cette émission le 18-19. Je vais retrouver RCF au bord de la Méditerranée, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Je voudrais simplement dire à tous nos auditeurs de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne qui nous écoutent, eh bien toute la joie qui a été la mienne de servir ici dans le diocèse de Chalon comme évêque pendant presque 8 années. Je les invite à faire confiance aux appels du Seigneur. C'est parfois surprenant, c'est un peu déstabilisant. Je les invite à vraiment se chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes pour construire l'Église jour après jour, et puis surtout être au cœur du monde des témoins de la fraternité. On est dans une société très fracturée, très très blessée. Je crois que le premier témoignage que nous avons à donner, avant de faire des grands discours au micro de RCF Cœur de Champagne, c'est celui de la fraternité, c'est celui de la charité évangélique qui produit beaucoup de fruits.
Merci Monseigneur François Touvet d'avoir été avec vous. Bonne route et puis bon vent, comme on dit en marine. Et merci à tous. Dans un instant, le journal national proposé par RCF.